France Inter, le 18-20.
La stupeur est passée, nous l'avons tous vécu en direct, ici même et ensemble hier. Nous avons vu les flammes manger la cathédrale et imaginer même qu'elle pouvait disparaître. La stupeur est passée, mais pas l'émotion, ça nous crève tous le cœur de voir cette cathédrale à ciel ouvert. Désormais, nous avons découvert notre attachement, au fond redécouvert, qu'il soit religieux ou laïque, à ce monument. Nous avons collectivement compris qu'au fond, aimer notre patrimoine, c'est comprendre qu'il peut disparaître, c'est réaliser qu'on passe devant sans le voir et qu'on n'y est plus rentré depuis des années, qu'on devrait peut-être d'ailleurs y emmener les enfants. C'est comprendre aussi que ce sont les hommes qui bâtissent ces lieux-là et que d'autres hommes sauront les rebâtir. Jamais à l'identique, pas forcément avec les mêmes matériaux bien sûr, et on y reviendra. Le pan d'histoire qui s'en va, il est irremplaçable, mais on peut sans doute imaginer qu'une autre histoire va désormais s'écrire. Mais alors, laquelle? Comment on reconstruit justement un bâtiment pareil? Est-ce que tout a été numérisé pour que l'on puisse retrouver exactement ce qui aidera les architectes à travailler? Faut-il le faire? Est-ce que les charpentiers, les tailleurs de pierre, les menuisiers, les couvreurs, les sculpteurs savent faire comme avant? Encore une fois, faut-il le faire? Et combien de temps ça prendra? Anne Hidalgo parle des JO 2024. Est-ce que c'est possible? Et qui doit financer tout ça? Vous êtes très nombreux à poser ce genre de questions ce soir. En tout cas, nous pouvons dire que nous savons ce que nous faisions, où nous étions quand on a appris que la cathédrale brûlait. Et ça, c'est sûrement un signe qu'il s'est passé quelque chose de très important qu'ensuite nous raconterons sans doute. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Et c'est vous qui commencez, Marine. Soyez la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Marine.
Oui, mon intervention, c'était justement par rapport à cette reconstruction, à ce mot qu'on emploie. On dit qu'il y en aura pour 10-15 ans. Et donc, dans ce mot, on s'entend que ça va être reconstruit à l'identique. Et on sait que sur beaucoup de monuments qu'on connaît aujourd'hui, châteaux, églises, qui ont été construits par exemple au XIIe siècle, on a eu des remaniements ensuite au XVe, XVIe, XVIIe, XIXe. Et est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas se permettre aussi de repenser nos usages, le culte aujourd'hui, l'espace public, et puis intégrer toute cette réflexion dans la reconstruction et voilà, y intégrer notre mode de vie contemporain, éventuellement des matériaux aussi plus récents. Et puis il y a aussi la question du budget. Qui pourrait aussi se poser pour peut-être faire une reconstruction plus frugale, on va dire.
Merci beaucoup, Marine. On va répondre à votre question. Je voudrais qu'on enchaîne avec Hervé. Bonsoir, Hervé.
Bonsoir.
Allez-y, Hervé.
Voilà. En 1194, la cathédrale romane de Chartres a brûlé. Elle n'a jamais été reconstruite. À la place, on a reconstruit une cathédrale gothique. Aujourd'hui, la cathédrale gothique de Paris a brûlé. Qu'est-ce qu'on va reconstruire ? Une cathédrale gothique ou plutôt une cathédrale contemporaine?
Eh bien, c'est l'un des enjeux et l'une des questions que vous êtes très nombreux à vous poser ce soir. Merci Hervé, merci Marine, merci vraiment à tous les deux pour répondre à vos questions et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Charlotte Hubert est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques. Bonsoir à vous Michel Zinck,
bonsoir.
Écrivain et médiéviste. Et bonsoir Guy Salavouard, vous êtes directeur des relations institutionnelles et du bénévolat à la Fondation du patrimoine.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on peut répondre? J'ai commencé avec vous Michel Zinck, l'écrivain, le médiéviste. Reconstruire à l'identique, vous allez nous expliquer. D'abord, on va voir ensemble si on sait réellement faire. Mais au fond, la question de Marine et d'Hervé, c'est faut-il réellement le refaire à l'identique?
Oui,
Est-ce qu'une autre histoire est en train de s'écrire?
C'est une question très importante et à laquelle je crois que personne ne peut répondre exactement en ce moment. Les décisions seront difficiles à prendre. Elles dépendent de beaucoup de monde, des architectes, des monuments historiques, peut-être d'une consultation beaucoup plus vaste. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas faire une comparaison exact avec ce qui se passait au Moyen-Âge, ou considérer qu'on est dans la continuité. Il est vrai que à Chartres, on a construit une cathédrale gothique à la place de la cathédrale romane. À Paris aussi, il y avait une ancienne cathédrale placée sous l'invocation de Saint-Étienne, qu'on aimerait bien connaître, qui était une cathédrale romane, et puis on a construit Notre-Dame de Paris. Et le Moyen-Âge est une époque où on n'hésite pas, sauf cas exceptionnels, à poursuivre, selon les nouvelles modes, un bâtiment commencé selon des modes plus anciennes. Mais aujourd'hui, il se trouve que les sensibilités ont changé et que je crois que la plupart d'entre nous trouveraient choquant de moderniser à l'excès Notre-Dame de Paris, et nous trouverions surtout que cela n'a pas de sens. Mmh. Il y a pour les croyants, évidemment, l'essentiel n'est pas le bâtiment, et on peut dire il faut l'adapter à la sensibilité religieuse du temps. Mais les croyants ne sont pas majoritaires, je dis d'autant plus que j'en suis. Moi, mais. Et il me semble que ce qui fait aimer Notre-Dame, et ce qui fait sentir la spiritualité de Notre-Dame, on l'a bien senti aux réponses de personnes de toutes opinions religieuses qu'on interrogeait hier soir, c'est que il y a une charge de spiritualité dans Notre-Dame qui n'est perceptible pour ceux qui ne sont pas à l'intérieur d'une religion, qui est perceptible à partir de sa beauté propre et de sa beauté passée, même si elle est incohérente, même si les siècles l'ont déjà modifiée, etc.
Charlotte Hubert, qu'est-ce qu'ils disent les architectes là-dessus? Est-ce que la tentation, c'est effectivement d'aller à l'identique ou pas? Parce que de toute façon, l'identique n'existe pas, par ailleurs, pour que les choses soient très claires, on ne va pas aller chercher des chaînes qui datent du XIIe siècle. Donc, est-ce que la tentation, c'est refaire comme si, ou au contraire, en fait?
Ce qu'il faut préciser avant tout, c'est que Notre-Dame n'a pas disparu. Les parties hautes de Notre-Dame de Paris, sa charpente, ce qu'on appelait la forêt, a été entièrement ruinée, sa couverture avec. Une partie des voûtes ont été fortement endommagées, des voûtes hautes. Les voûtes du chœur sont en place, l'intérieur de Notre-Dame est endommagé, mais n'a pas disparu. On n'est pas une tabula rasa.
Évidemment qu'on se poserait les questions totalement différemment si on était dans tabula rasa. Peut-être qu'on referait pas monter une... Oui, mais là, justement...
Dit Michel Zinc est tout à fait juste. Il est intervenu à travers l'histoire de toutes les cathédrales, des reconstructions, des incendies, souvent, des reconstructions, souvent, d'une cathédrale romane à une cathédrale gothique, on peine toujours à savoir finalement ce qui avait été démoli ou si on avait un peu accentué pour faire un nouvel édifice. Ce qui est intervenu en cours de route au XIXe siècle et qui est extrêmement important, c'est la protection au titre des monuments historiques. C'est qu'on a ce lieu est protégé, classé monument historique et reconnu pour ses qualités du XIIe, XIIIe siècle et du XIXe siècle et de sa grande restauration par Eugène Viollet-le-Duc. Donc c'est cet édifice-là qui est pour le ministère de la Culture aujourd'hui protégé. Alors on a des exemples, on a tous pensé à la cathédrale de Reims en 1914 et 1917 qui a connu le contexte du conflit armé était évidemment extraordinairement différent, mais les conséquences sur l'édifice sont tout à fait comparables. Sur lesquelles on a restauré la charpente d'une manière très contemporaine. La charpente est en béton à Reims, et on a remis une couverture en plomb qui est insoupçonnable de l'extérieur pour que l'image soit préservée.
Mais est-ce que c'est ça, Charlotte Hubert? Est-ce que c'est les questions auxquelles on réfléchit aujourd'hui? On se dit oui, de toute façon, c'est par là qu'on va aller, en fait.
Ce n'est pas les questions auxquelles on réfléchit aujourd'hui. Les questions auxquelles réfléchit très certainement mon confrère Philippe Villeneuve, l'architecte en chef qui est sur la brèche, c'est de sauvegarder, conserver ce qui est en place, ne pas accentuer l'effondrement. On y réfléchira, et c'est un grand dossier à ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? Quel sera le parti de restauration? C'est la question à venir.
Dans ces cas-là, Guy Salavouer, votre avis, vous, là-dessus
En complément de ce qui vient d'être dit, je voudrais apporter un peu en deçà de la réflexion, l'intuition de tous ceux qui, dans la journée, nous ont téléphoné, nous ont fait connaître leur présence, leur bonne volonté, leur désir de contribuer financièrement en temps. La journée a été folle. On est surpris de l'espèce d'enthousiasme, de la solidarité enthousiaste qui est générée.
L'enthousiasme et l'émotion, il y a quelques témoignages qui arrivent encore maintenant.
Absolument,
et qui sont très jolis.
Eh bien, la plupart un très grand nombre, pour pas dire la totalité de ceux qui se sont exprimés de cette façon-là, sous-entendent, imaginent qu'on va restaurer l'identique, qu'on va retrouver Notre-Dame comme elle était avant.
De la réaction de l'immédiat, c'est de la réaction dans l'émotion.
C'est peut-être l'immédiateté.
Peut-être que c'est pas dans l'émotion qui font décider de ça, en fait, non?
Bien sûr, c'est pas dans l'émotion. Évidemment, je pense qu'on ne se privera pas de la modernité. On utilisera les lasers pour mesurer les longueurs, on utilisera l'outillage de levage qui était baptisé, mais l'intuition populaire, au sens le plus noble qui soit, c'est qu'on retrouve Notre-Dame comme elle était hier matin.
Tiens, justement, je voudrais qu'on écoute Hervé à ce sujet. Bonsoir, Hervé.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Monsieur Lamoui, écoutez, pourquoi, évidemment, cette dramatique chose? Vraiment, on a tous, bien sûr, eu les larmes aux yeux hier, bien sûr. Mais pourquoi ne pas profiter, je veux dire, de ce dramatique accident pour remettre au goût du jour le compagnonnage, les tailleurs de pierre, les charpentiers. Il y a des gamins qui sortent de l'école, qui ne savent pas quoi faire, qui sont désœuvrés, à qui on propose de faire du management. Arrêtons. Je veux dire, les ordinateurs, c'est bien, on peut travailler sur ordinateur, bien sûr, mais travaillons de nos mains, le compagnonnage, les compagnons du devoir, c'est exceptionnel. Moi, j'habite pas très loin du château de Guédelon, qui est en train de se faire, surtout du Moyen-Âge, avec des tailleurs de pierre, des charpentiers. C'est fabuleux, c'est fantastique. Emmenons les mômes là-bas, et puis incitons les écoles, le compagnonnage, c'est extraordinaire. On aura besoin, même pour construire Notre-Dame, on aura besoin dans 5-6 ans de tailleurs de pierre, de gens qui feront, ce sont des artistes, ces gens-là.
Merci.
Voilà, je suis un petit peu, excusez-moi.
Non, je vous en prie, et merci pour votre question, parce que on a beaucoup parlé effectivement de ces artisans-là. Michel Zinck, moi je suis peut-être d'une très grande naïveté, mais pour moi ça existe encore, et ça existe vraiment, le compagnonnage.
Oui.
Tous
aussi.
Ces gens que nous citait Hervé, ils existent.
Ils existent.
Ils travaillent, ils sont super forts.
Ils existent, et il me semble que justement ce sera l'occasion de les employer. Ils existent encore, ça suscitera de nouvelles vocations. En ce sens, je dirais pas que c'est une chance, mais enfin, cela va prolonger ce compagnonnage. Qui existe, il n'y a pas que Guédelon, ils seront mieux employés sur le chantier de Notre-Dame.
Ce que ça veut dire, Charlotte Hubert, c'est encore vers vous que je me tourne là-dessus, c'est que non seulement, quoi qu'on décide, on sait faire, en fait. Si on décide de refaire les assemblages tels qu'ils étaient, on sait faire. Si on décide de faire différemment, on sait faire. Le savoir-faire, grâce aux compagnons et à d'autres, pour le coup, quoi qu'on décide, on l'a, en fait.
Oui, le savoir-faire en France est là. Je remercie l'auditeur pour son intervention et je l'invite. Effectivement, les compagnons sont là. Les savoir-faire existent en France, sont de très haut niveau. Ont parfois du mal à recruter des jeunes, donc j'invite Hervé à porter son message très largement, parce qu'ils sont parfois trop peu nombreux. Les savoir-faire existent, tant dans nos métiers de profession de conception intellectuelle, les architectes, conservateurs, on était au chevet hier soir de Notre-Dame, notre ministère a les savoir-faire et a les capacités, les ressources pour faire le projet, quel qu'il soit, effectivement. Et je vais insister là-dessus, comme nous l'avons dit, ça n'est pas à chaud qu'on prend ces décisions. Il faudra y réfléchir avec tous les éléments en main.
En parlant de ça, Guy Salaveur, je repense au début de la question de Marine tout à l'heure, qui parlait d'adapter Notre-Dame à peut-être un autre mode de vie, une autre manière de gérer l'espace. Elle parlait notamment de matériaux écolos. Et tout ça a l'air toujours un peu en terrible balance, en fait, entre la modernité, donc oui, plus écolo, plus économe, plus tout ça, et ce qu'on pourrait faire si on refaisait, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'identique.
Il n'y a peut-être pas de contradiction
pas.
Entre
et
les matériaux biosourcés ou les matériaux identifiés, et puis une restitution identique. Mais j'aime bien l'observation de notre auditeur, et j'aime bien son appel, parce qu'en vérité, vous avez raison, le savoir-faire existe, il est présent, on le connaît, mais tout de même, tous ces métiers du patrimoine, c'est des métiers qui sont un peu délaissés, c'est des métiers qui ne sont pas assez valorisés, pour parler franc, qui ne sont pas toujours assez payés, et qui globalement n'attirent pas beaucoup les jeunes. Donc il y a peut-être là une opportunité, il faut voir les choses positives dans les malheurs qui nous arrivent, il y a peut-être une façon, une opportunité de faire valoir que ces métiers sont des métiers prestigieux, sont des métiers emblématiques, sont des métiers souvent délocalisables, qui s'exercent à proximité de chez soi et qui donnent énormément de plaisir à ceux qui les exercent. Quand je regarde un tailleur de pierre, j'ai envie d'être tailleur de pierre, mais je ne le suis pas. Quand je regarde un ferronnier, ça m'est arrivé récemment, je me dis, mais comment c'est-il que je ne sois pas ferronnier ? Dans une prochaine vie, je le serai. Donc il y a peut-être bien là une opportunité pour montrer que ces métiers existent, qu'ils sont valorisants et qu'on va en avoir besoin énormément pour ce patrimoine-là, cette pièce unique, mais aussi pour toutes les autres. Il ne faut peut-être pas que Notre-Dame nous fasse oublier les autres pièces de patrimoine que l'on doit restaurer, que l'on s'efforce de restaurer, qui parfois ne le sont pas.
Et d'ailleurs, avant de retourner au standard, je ne sais pas qui peut répondre, avant de toute façon de se poser la question, de se poser tout court et de se poser la question de ce qu'on fera, quel est le risque que les réparations à faire soient beaucoup plus importantes que ce qu'on imagine ? Qu'est-ce qui va se passer là dans ces 48 ou 72 heures, le temps que le matériel sèche, le temps qu'on sache que les pierres qui sont passées à une température extrême, qui sont en train de refroidir, voient comment ils réagissent, qu'est-ce qu'il nous faut comme temps pour être sûr que d'autres choses ne vont pas tomber, et tomber même peut-être très fortement ? Est-ce que c'est vous, Charlotte Hubert, qui pouvez répondre à ça ?
C'est une question délicate. Aujourd'hui, les experts étaient au chevet de Notre-Dame, ils y seront encore demain, certainement pour plusieurs jours. Encore une fois, pour consolider, étayer, hein, mettre sous cintre la, les voûtes, et la voir réagir. Il faudra le temps que ça sèche, parce que dans un incendie, le feu est dévastateur, mais l'eau l'est aussi énormément. Il faudra le temps que ça sèche et le temps de la réflexion. Elle sera mise en sécurité assez vite, et puis cette réflexion, elle sera longue. Elle sera certainement mise sous un...
Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir une très mauvaise surprise et apprendre que demain, je sais pas, il y a un autre morceau de la voûte qui s'effondre à un autre endroit pour toutes ces raisons-là? C'est pas impossible, c'est possible. On n'en sait rien.
On en sait, je peux pas vous répondre.
Et on a le droit de pas pouvoir répondre à ce genre de questions.
Je peux pas vous répondre. J'ai un confrère sur place qui lui peut peut-être y répondre, mais vous imaginez bien que les gens mobilisés sont dessus.
Cette phase d'étude avant la phase de travaux.
Bien sûr.
Très longue. Cette question, c'est pour vous, l'historien Michel Zinck. Est-ce qu'on a encore des plans? Quel type de plans avons-nous sur lesquels les maîtres d'œuvre ont travaillé au XIIe siècle et les architectes?
Alors, pour le début de la cathédrale, pour le XIIe siècle, donc elle a été entreprise en 163, je crois que nous n'avons pas de plan. Nous n'avons pas de plan avant le XIIIe siècle, pour ça qu'on attache tant d'importance à l'album de Villard de Honnecourt. Je crois savoir, mais je peux me tromper, je parle sous le contrôle de Madame Hubert, que nous avons des plans, en revanche, pour cette fameuse charpente. Mais qui est naturellement plus tardif parce qu'il a fallu le temps de dresser l'édifice. Je vais dire quelque chose qui est probablement idiot, n'est-ce pas, ou qui prend tout le monde pour des idiots. Mais nous focalisons sur cette charpente qui est vrai. Il est vrai, était prodigieuse. C'était des chaînes extraordinaires et elle a duré tout ce temps-là. Cette charpente, il faut bien s'entendre, on ne la voit pas. Ce n'est pas une église avec un berceau de bois au-dessus. Il faut aller la voir pour la voir. C'est-à-dire qu'un parti comme celui pris à Reims, d'avoir une charpente moderne supportant un toit qui est à peu près à l'identique de l'ancien, n'est pas blasphématoire.
Mais je croyais, moi, que c'est peut-être le cas de certains bâtiments et pas tous, je ne sais pas, qu'on avait numérisé la plupart des bâtiments de ce type-là et que du coup, on pouvait effectivement avoir ce qui aurait été un plan à l'époque, au XIIe, au XIIIe siècle ou plus tard. Est-ce qu'on a numérisé la charpente de Notre-Dame?
La charpente de Notre-Dame est relevée, précisément. On en a ses dessins son dernier état, sur lequel on peut interpréter les parties XIIe siècle, les parties XIIIe siècle, les parties XIXe siècle. On a la connaissance, le plan de Notre-Dame est numérisé, il existe, on a les ressources et la connaissance. Ce qui n'empêche pas d'avoir une réflexion sur ce qu'on doit faire.
Absolument.
On a la connaissance de ce qu'on a perdu aujourd'hui, au niveau de la charpente. Et effectivement, elle n'est pas visible. Elle était un trésor de savoir-faire, d'expression du savoir-faire à la période médiévale. La reconstruire à l'identique, que vous disiez tout à l'heure, est possible, on a les savoir-faire. C'est une question de partie et de choix.
Et comme on le disait, effectivement, peut-être qu'il faudra prendre le temps réellement de cette réflexion. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Philippe, on vous écoute.
Bon, je voulais juste intervenir sur un point qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous êtes en train de discuter entre vous.
Il y a beaucoup des questions comme la vôtre, Philippe, donc allez-y sans crainte.
L'idée, c'était surtout de retenir le choc que j'ai eu quand j'ai entendu, il y a une demi-heure, qu'on était arrivé à un capital de 700 millions promis par des grandes familles et des grands industriels. Et j'étais extrêmement choqué d'apprendre que tout d'un coup on était capable, comme on l'a vu d'ailleurs pour l'histoire des Gilets jaunes, qu'on était capable de mobiliser beaucoup d'argent en très peu de temps. Alors que j'oppose cet événement dramatique, qui est l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris, à la situation du monde pour laquelle il est toujours difficile de trouver 10 euros pour arriver à trouver des solutions qui me semblent à moi, en tout cas, plus essentielles. Mais... Alors certes, on est en face d'un patrimoine historique avec tout ce que ça peut représenter, mais il n'en est pas moins vrai que c'est quand même triste de voir qu'on est capable de mobiliser en moins de 24 heures 700 millions pour des pierres, même si elles sont vieilles, respectables, alors que notre humanité, par rouleau et qu'il n'y a pas beaucoup de mobilisation, semble-t-il,
merci.
À ce niveau-là.
Merci beaucoup, Philippe. Il y en a beaucoup des questions comme la vôtre. Qui peut répondre à ça, Michel Zinc? Qu'est-ce qu'on dit à Philippe?
Oui, il est difficile de répondre à Philippe. Effectivement, il est frappant de voir que l'émotion attire des dons considérables dans un cas exceptionnel et dramatique comme celui d'hier. Il faut corriger un petit peu les choses en disant que dans le cas d'une catastrophe humanitaire très spectaculaire, on assiste aussi à un afflux de dons considérables. Donc, je ne dirais pas que c'est les pierres ou le patrimoine ou le passé historique contre la vie des hommes d'aujourd'hui, c'est le poids peut-être excessif de l'émotion immédiate face à une réflexion continue sur les besoins de notre pauvre monde. La question est pertinente, on ne peut pas le nier.
Et il y a beaucoup de questions de ce genre-là, de la part de nos auditeurs ce soir, et sur Twitter également, et un peu partout. Guy Salavoir, il a raison, Philippe, en soi, la somme est considérable et très très immédiate. Mais en même temps, ce que j'ai envie de vous demander, c'est que serait aujourd'hui le patrimoine sans le mécénat de ces entreprises-là et de ces gens-là, sincèrement?
Alors effectivement, le patrimoine est en partie sauvegardé par le concours du mécénat, du grand mécénat, comme il vient d'être mentionné par Philippe, mais aussi par le mécénat des petites et moyennes entreprises, et aussi par le mécénat que nous appelons le mécénat populaire, c'est-à-dire les individus, les personnes, vous et moi, d'une certaine façon, peut-être d'une façon certaine, qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine qui leur est proche. La Fondation du patrimoine a été créée pour ça, et on observe depuis 20 ans qu'elle existe, que ce patrimoine de proximité, ce patrimoine devant lequel on passe tous les jours, eh bien, les Français l'aiment beaucoup, et lorsqu'on fait appel à leur générosité pour le sauvegarder, pour le restaurer, même s'ils n'y entrent jamais dans l'église, ou même s'ils passent jamais sur le pont romain, ils contribuent avec du temps, avec leur temps, avec leur argent. Dans ce cas...
De manière peut-être plus régulière d'ailleurs ou pas, parce que moi je me mets à la place du gars qui ne gagne pas bien sa vie et qui dit ça sert à quoi que je fasse un effort et que je donne 5 ou 10 euros parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, si en face de moi, d'un coup de dé, et parce qu'en plus il joue à la surenchère, toutes ces grandes familles très très argentées donnent 100, 200, 300 millions. Tant mieux pour le patrimoine en soi.
Tant mieux effectivement, dès l'instant où cet argent est bien affecté à ce pourquoi il est sollicité, il est donné, mais celui qui donne des petites sommes, de notre point de vue, à la Fondation du patrimoine, il est aussi mécène que celui qui donne des grosses sommes. Il a donné à la hauteur de ses convictions et à l'auteur de ses moyens. Et il a donc le droit, au titre de mécène, et à ses contreparties s'il y en a. Donc il n'y a pas que les grosses sommes, les gros montants qu'on a entendus aujourd'hui, il y en a eu, tant mieux. Et dans la journée, à la Fondation du patrimoine, Oui, tout à fait. On n'est pas submergé parce qu'on fait face du mieux que l'on peut avec les moyens qu'on a, les bénévoles que l'on a, mais on a perçu dans la journée, on a collecté environ 5 millions d'euros dans une demi-journée, ceci a été mis en place vers 11h ce matin, ce qui n'est jamais arrivé. Et c'est un très grand nombre de petits donateurs, de personnes qui sont concernées, se sentent obligées, se sentent le devoir de participer à la hauteur de leurs moyens. Tant mieux s'il y en a d'autres qui donnent beaucoup et qui peuvent le faire, il faudra bien tout ça.
Tiens, je voudrais qu'on poursuive sur ce sujet grâce à André. Bonsoir André.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Écoutez, c'est très intéressant, l'auditeur, surtout le hasard veut que je suis administrateur en Bretagne des compagnons bâtisseurs. Donc le sujet de la question qu'a posé l'autre auditeur m'a interpellé. Mais mon propos était, au-delà de cet aspect spirituel, il y a ce côté matérialiste dont vous venez de parler, et le président Macron a dit « nous rebâtirons ». Mais nous, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est avec l'argent des mécènes dont vous venez de parler, avec l'argent des fondations, avec l'argent des particuliers qui vont donner effectivement certains, compte tenu de la conjoncture difficile que nous traversons, est-ce que l'État va contribuer d'une manière ou d'une autre à justement participer, ce qui voudrait dire que ce sont les contribuables et les citoyens qui vont payer? Et j'ajouterais juste une chose, imaginez dans quel état d'esprit peuvent être les personnes qui verront justement des subventions, des aides participer justement à cet effort de contributeurs à partir du moment où il y a des idées qui, je terminerai par ça, il y a des idées très intéressantes. Il y a un loto du patrimoine. Pourquoi on ne ferait pas pour Notre-Dame de Paris un ou deux ou trois, parce que ça va se compter en milliards. Pas en centaines de millions, en
alors,
milliards.
Il y a déjà, merci André pour votre question, il y a déjà, Guy Salavuar, une sorte de Notre-Dame-ton qui va être mise en place assez prochainement, de ce que j'ai cru comprendre.
Alors, effectivement, tout un dispositif va être mis en place, exceptionnel à la dimension de l'événement, à la dimension de cette catastrophe. Mais pour répondre un peu aux deux questions, celle-ci et puis la précédente, cet apport du mécénat populaire, du mécénat des grandes entreprises, c'est autant qui viendra en déduction de la facture récente à charge du propriétaire, qui est l'État. Donc, d'une certaine façon, les contribuables que nous sommes les uns et les autres doivent se féliciter que, certes, l'État est le propriétaire, mais il se fait aider par du volontariat, par du mécénat, qui est d'une certaine façon un impôt consenti. C'est même la forme la plus aboutie de l'impôt consenti, le mécénat. Donc il y a là un dispositif qui est vertueux à bien des égards, puisqu'il permet à ceux qui le souhaitent de participer et qui oblige ceux qui en sont propriétaires de faire le travail complètement et avec la qualité qui est requise.
Parmi tous les témoignages qu'on reçoit et qui vont dans le sens de ce que vous dites, vous qui dites que vous avez reçu 5 millions de dons, rien que vous, donc on imagine ce qu'il peut y avoir aussi ailleurs. On a ce témoignage qui nous est arrivé par mail et qui vient d'Alexia et qui dit: depuis hier, je me demande pourquoi ça me touche de voir cette cathédrale si abîmée. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de bombe, il n'y a pas la guerre, juste un feu bête. Ayant grandi à Paris, je suis passé des dizaines de fois devant Notre-Dame. J'aimais faire le détour entre Saint-Michel et Châtelet pour la voir et je suis rentrée quelques fois dedans, surtout petite en famille, avec des gens qui ne sont plus avec nous. Puis plus grande, je me disais toujours qu'il y avait trop la queue ou que j'avais pas le temps et que ce serait pour la prochaine fois. Ah ben non, voilà, donc nous sommes mortels, le temps passe et même une vieille dame magnifique, une vieille cathédrale qui surveille Paris depuis des siècles peut disparaître. Et je pense à ma grand-mère, dit-il, à ses 85 ans, elle qui probablement ne verra pas désormais le toit de Notre-Dame. Comment, Michel Zinc, on peut on explique encore une fois combien il y a un attachement en fait à ce bâtiment-là, qui est un attachement très particulier. Oui. Il y en a deux dans Paris, Notre-Dame et la Tour Eiffel.
Oui, mais le message est extrêmement émouvant et d'un ton absolument juste. C'est exactement cela. Notre-Dame, c'est Paris. Et donc, pour les Parisiens, alors on voit l'émotion que ça suscite dans le monde entier, mais pour les Parisiens, c'est un lieu et un monument à la fois familier et étranger. On n'imagine pas Paris sans Notre-Dame, mais on n'entre pas facilement dans Notre-Dame. Et il y a un deuil, c'est comme un deuil immobilier. On doit vendre une maison, un appartement. On n'ose pas trop pleurer parce que c'est pas d'avoir perdu quelqu'un, mais c'est une véritable souffrance. Eh bien, cette véritable souffrance, est ce que beaucoup d'entre nous sentent maintenant et ce que cette dame dit très bien. Sa grand-mère a 85 ans. Moi, je vais en avoir 74. Je verrai certainement pas Notre-Dame restaurée. Et j'en souffre.
On va y venir effectivement sur le temps que tout cela prendra. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir France Inter.
Soyez la bienvenue Brigitte.
Je suis très étonnée qu'on prenne mon appel, même de province. Oui, je suis nantaise depuis quelques années. Ma question c'était, est-ce que, étant donné l'ampleur de cette catastrophe, on va prendre des précautions accrues pour qu'il y ait une vigilance dès qu'il y a des travaux dans une cathédrale ou une basilique, puisque à Nantes, il y a eu d'abord la cathédrale qui a brûlé il y a une trentaine d'années, et puis il y a environ 3 ans, une basilique beaucoup moins prestigieuse qui a brûlé dans les mêmes circonstances, travaux sous la charpente.
Enfin, merci. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Brigitte. Est-ce qu'on apprend d'une cathédrale brûlée à une autre cathédrale brûlée, pardon de le dire comme ça, Michel Zinc, qu'on a appris ou pas?
Et mais je ne sais pas, je crois qu'il faudrait demander à Charlotte Hubert, qui est probablement beaucoup plus au fait que moi de ces questions. Il est vrai que ça arrive souvent pendant les travaux et souvent à la fin des travaux, dit-on. Enfin bon.
On a beaucoup appris, et c'est une Nantaise qui pose la question. La cathédrale de Nantes a brûlé en 1972.
Les images, d'ailleurs, on s'est amusé nous cet après-midi, on a regardé, c'est très impressionnant, ce sont les mêmes.
Ce sont les mêmes, parce que ce sont deux cathédrales, deux grands vaisseaux, deux symboles dans la ville. Je rebondirai aussi sur le témoignage précédent, qui est très touchant, et qui va au cœur des gens comme moi du service des monuments historiques. C'est que le message est réel, le monument historique est notre bien commun. Il est à tous, il est à nous. Notre-Dame est à chacun d'entre nous. Alors, on apprend des incendies, on a appris depuis 1972. Il faut savoir que les monuments historiques, au risque d'aller contre certaines idées reçues, répondent aux normes d'incendie comme tous les établissements recevant du public. On est à ce jour incapable de se parer de tout, avec un grand T. Notre-Dame de Paris avait une détection incendie, avait des colonnes sèches, était équipée. On apprendra bien sûr, on respectera la législation évidemment, mais elle était surveillée. Il y a une législation très stricte en cas de chantier pour ce qu'on appelle un permis feu. Les compagnons doivent s'arrêter des heures avant de quitter le chantier. Il y avait des rondes de pompiers faites sur Notre-Dame. Et tout a été. Et pourtant, ça arrive.
Un mot, Gisèle Avuard.
Juste un mot pour dire que. D'une façon générale, je pense qu'on apprend toujours des malheurs qui nous arrivent et des catastrophes. En particulier, je viens d'un autre milieu qui est celui de l'industrie. Eh bien, on apprend toujours des catastrophes. Il y en a eu, il y en a toujours. Et c'est comme ça, il faut le dire, que progresse la sécurité. Il y a de moins en moins d'accidents d'avion, c'est pour ça qu'ils sont aussi choquants. Il y a de moins en moins de grands incendies, c'est pour ça qu'ils sont aussi choquants. Donc il faut tirer les leçons, il faut que les enquêtes aboutissent, il faut aller jusqu'au fond des choses pour connaître les causes et faire en sorte qu'elles ne se renouvellent pas. Il y a quelque chose de positif dont il faut tirer profit.
Une question de Julie sur franceinter.fr. Comment va-t-on protéger les voûtes en attendant de rebâtir une toiture? Est-ce qu'il y a des solutions provisoires?
Oui. Bien sûr, Notre-Dame recevra très probablement ce qu'on appelle un parapluie, qui est une couverture provisoire à base d'échafaudage et bâché. Elle va avoir un toit provisoire. Évidemment, on protégera les voûtes sûrement assez rapidement. Oui.
Ce qui amène à la seconde question, parce que c'est une question à tiroir que celle de Julie. Peut-on envisager une réouverture au public avant la fin définitive des travaux, une fois que les voûtes seront donc réparées, l'intérieur nettoyé, sans attendre la réfection réellement de tout cela? Parce que sinon, ça veut dire que plus personne ne mettra les pieds à l'intérieur de cette cathédrale pendant combien d'années?
Je suis très en mal pour vous répondre parce que...
Et on ne vous en veut pas parce que bien sûr...
Parce que le diagnostic doit être fait et que cette ouverture, je pense qu'elle est souhaitée évidemment par notre ministère et notre ministre Franck Riester au plus tôt, mais dans la sécurité pour tous. Ça sera le maître mot.
Et le plus tôt, parce qu'on a entendu tout et son contraire, on entend 15 ans, 20 ans, on entend les Jeux Olympiques, on entend 3 ans, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on ne sait pas.
Les Jeux Olympiques, ça paraît optimiste tout de même, non?
5 ans, 2024.
Oui.
On est sur une histoire complètement hors norme, d'un édifice hors norme, d'une émotion incroyable qu'on a tous. On a tous été touchés au cœur, mais à l'échelle mondiale. On parlait des dons, tout le monde veut. On a l'impression que tout le monde veut participer à cette aventure humaine qui sera la restauration de Notre-Dame. C'est dans ce sens que notre président de la République a bien dit nous la reconstruirons. Et c'est l'échelle temps. Tout est possible, j'ose dire, tout est possible. Quels moyens nous pourrons-nous nous donner et dans quelles réflexions?
Et j'entends bien qu'il faut qu'il y ait un diagnostic tellement complet, tellement terminé avant de savoir. Et pour l'instant, évidemment, ce diagnostic, nous ne l'avons pas. Je voudrais qu'on prenne une dernière question, c'est celle de Raoul. Il est à Perpignan. Bonsoir Raoul.
Bonsoir.
Allez-y Raoul.
Je voudrais savoir dans quel style on va reconstruire la flèche de la cathédrale, la flèche Viollet-le-Duc, dans le style de Viollet-le-Duc ou d'un autre, a-t-on commencé à réfléchir à cela?
Merci beaucoup Raoul, j'ai l'impression que je pourrais répondre que non, donc on n'a pas encore commencé cette réflexion. Et moi j'ai envie de la pousser plus loin. Vous nous l'avez expliqué, Michel Zinc, qu'il n'y avait pas de flèche avant le 19e siècle.
Oui.
Et chiche qu'on refait pas de flèche. Est-ce que je vais me faire lapider si je dis ça?
Enfin, pour ma part, je trouverais dommage qu'on ne refit pas de flèche. parce que elle, la flèche dans la silhouette générale du bâtiment a sa raison d'être. Le toit plat au-delà de la croisée du transept, comme ça, a quelque chose d'un peu plat, justement. Elle a existé sous diverses formes dans le passé. Et d'autre part, quel que soit le jugement qu'on porte sur la flèche de Viollet-le-Duc telle que Viollet-le-Duc l'a conçue, Viollet-le-Duc, alerté par Hugo, a sauvé Notre-Dame, il a sauvé beaucoup d'autres monuments en France, il a sauvé Vézelay, il a sauvé Carcassonne, et on peut devoir à Viollet-le-Duc de remettre une flèche, même si c'est pas exactement sa flèche. Quant à savoir si ça doit être sa flèche ou une flèche telle qu'elle a existé avant ou une autre flèche, ça, les experts en décideront.
Voilà. Guy Salavure, moi, ça me donne envie d'être sous la table quand ces discussions aura lieu, parce que ça va être formidable quand même. Est-ce qu'on l'a fait effectivement façon 19e? Est-ce qu'on l'a fait comme avant? Est-ce qu'on l'a fait pas du tout? Ça va être extraordinaire, ces discussions. À quel moment quelqu'un va devoir trancher? Qui tranche dans ces cas-là d'ailleurs? Qui finit par dire bon ben d'accord, allez, on lui refait sa flèche telle qu'elle était? Qui tranche? Comment ça se passe? Je ne sais pas, c'est soit vous, soit Charlotte Hubert.
Pour ce qui est des concertations, il y aura des concertations, il y aura des consultations, il y aura certainement une volonté de faire s'exprimer tous les points de vue, et puis au bout du bout, il y a bien quelqu'un qui décidera.
Un grand débat, vous voulez dire?
Et ce sera peut-être dans la solitude du pouvoir, s'il s'est bien entouré, bien informé, bien imprégné du sujet, il prendra une bonne décision.
Est-ce qu'il faut demander, je dis ça très sérieusement, est-ce qu'il faut vraiment demander à nous, les Parisiens, au public, aux Français, est-ce qu'il faut leur poser la question à eux? Parce qu'on risque de se retrouver là, pour le coup, effectivement, avec 30 000 propositions. Il y a 68 millions d'entraîneurs de l'équipe de France, il y a 68 millions d'architectes de Notre-Dame aussi, probablement.
Avec du bon sens, on peut prendre des mauvaises décisions.
Oui, dit Charlotte Hubert. Il faut que ça reste entre vous, c'est ça le sens de ma question, Charlotte Hubert. Vaut mieux que ça reste entre vous, ce genre de discussion ou pas?
Ce genre de discussion, aujourd'hui, on a des instances assez claires hein, sur les sur les décisions, sur les grands projets de monuments historiques. Notre ministère, il y a une équipe de concepteurs, les architectes en chef que nous sommes, sommes les maîtres d'œuvre sur la restauration des monuments classés appartenant à l'État. Nous faisons des projets et on a ce qu'on appelle la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui permet, sur demande du ministre, avec un collège d'experts, de trancher.
Et merci beaucoup. Merci vraiment à tous. Merci à tous pour vos nombreuses questions. Portez-vous bien.